Bonjour à tous. C'est toujours un plaisir d'avoir l'opportunité de partager la parole. Ce matin, nous allons poursuivre notre étude sur l'exposé sur la série qu'on a commencé pratiquement déjà il y a trois, quatre semaines, qu'on a entamé cette nouvelle série Miséricorde et Évangile. Donc l'exposé de ce matin va être dans cette suite de la série de l'exposé sur donc la miséricorde et l'Évangile. Et si on il y a une image qui va apparaître, et quand vous voyez cette image, à quoi pensez-vous? Que ressentez-vous quand vous conduisez et on est à l'été et vous voyez cette image? Que ressentez-vous? Est-ce que vous vous dites en vous-même, « Ah, je suis vraiment ravi, je vais prendre un détour. » Mais certainement, plutôt que d'être ravi, vous serez inquiet. Inquiet parce que vous ne savez pas où ce détour va vous mener. Même parfois, vous allez être frustré. Frustré parce que ce détour risque de chambouler tout votre agenda de la journée. Je me souviens un jour, mon épouse Clotilde m'a raconté sa panique quand elle devrait prendre sur la 20 la sortie de Sorel et elle s'est retrouvée sur une route qui menait à Saint-Basile-le-Grand. Même si dans le nom de la ville, il y avait le nom de son mari, elle ne savait pas où cette route menait. Elle ne connaissait pas Saint-Basile-le-Grand. Donc, elle était inquiète. Elle était inquiète d'autant plus qu'elle ne savait pas où se trouverait une voie de sortie qui la ramènerait sur la route de Sorel. Donc, voyez-vous, frères et sœurs, on peut être des fois confronté à certains de ces détours. Mais imaginez, que se passe-t-il si vous conduisez et subitement, vous voyez deux panneaux. Un qui dit « Vous pouvez prendre votre chemin habituel » et l'autre qui dit « Détour à venir. » Probablement que, au vu de votre réaction tout à l'heure, tout le monde prendra son chemin habituel. Parce que le détour, comme on vient de le voir, on ne sait pas où il va nous mener. On ne sait pas combien de temps il va nous prendre. Et mieux encore, si je vous dis que ce détour va probablement vous prendre plus de temps, va entraîner une frustration personnelle, ou même vous coûter quelque chose. Bien-aimés, il arrive parfois qu'il y ait des détours que nous soyons obligés de prendre dans la vie sans que nous puissions faire vraiment un choix. Il peut arriver qu'il y ait un problème de santé, quelqu'un traverse un problème de santé, c'est un détour que Dieu permet sur son chemin. Il peut arriver que vous ayez un problème professionnel, vous perdez votre emploi, il peut arriver que vous ayez un problème dans votre famille, avec votre conjoint, votre conjointe, et que vous n'avez vraiment pas le choix de passer au travers. Mais il y a aussi des fois où nous avons le choix volontairement de continuer à marcher sur le chemin que nous poursuivons, où nous avons le choix de faire un détour. Volontairement. Nous avons le choix de faire un détour volontairement et que ce détour probablement peut changer la vie de quelqu'un, peut aider quelqu'un sur ce chemin-là. Alors, est-ce que nous sommes de ceux qui allons continuer à prendre notre chemin habituel? Parce que c'est un chemin sécuritaire, un chemin que nous connaissons. Nous pouvons conduire les yeux fermés ou nous allons accepter de faire un détour. Ce matin, nous allons parler d'une personne. Une personne dans la parole de Dieu, dans les évangiles, la personne que nous... Cette histoire, nous la connaissons très bien parce qu'on a fini par lui donner un nom, ce personnage, le bon Samaritain. Prions. Seigneur, notre Dieu, ce matin, nous voulons d'abord penser à nos deux pasteurs, Yannick et Luc, qui sont à Sorel. Nous prions afin que tu les accompagnes, Seigneur, dans tout ce que tu es en train de préparer pour cette Église. Seigneur, tu es le Dieu qui bâtit ton Église Et nous prions que tu permettes à ce que cette Église, par ta grâce, puisse de nouveau être un lieu qui permette, Seigneur, à ce que ton Évangile brille, Seigneur, dans cette région. Sois béni, Seigneur, de tout ce que tu prépares pour cette Église dans les semaines, dans les mois, dans les années à venir, pour la gloire de ton nom. Seigneur, ce matin, pendant que nous ouvrons ta parole, nous voulons nous laisser conduire par ton esprit. Éternel, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire. Seigneur, viens appliquer ta parole à nos cœurs. Viens parler à nos cœurs ce matin. Seigneur, que mes frères et sœurs ici rassemblés ne puissent pas entendre un homme leur parler, mais qu'ils puissent entendre le Saint-Esprit de Dieu leur parler de cœur à cœur, d'esprit à esprit. Seigneur, efface-moi de devant ton peuple et Seigneur, viens parler à ton peuple. Sois béni notre Dieu de ce que tu nous aimes. Tu nous aimes et que tu veux, Seigneur, nous amener à marcher chaque jour davantage à ta ressemblance. C'est en Jésus-Christ que nous prions. Amen. Écoutons la lecture.
Le passage biblique de ce matin est tiré de Luc 10 au verset 25 à 37 dans la nouvelle édition de Genève. Luc 10, verset 25 à 37, nouvelle édition de Genève. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver. « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain? » Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands, qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur, qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite, qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit « Aie soin de lui ». « Et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 hommes te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? « C'est lui qui a exercé la miséricorde envers lui, » répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, « Va, et toi, fais de même. »
Amen. Voilà comment, bien-aimés, ce matin, je résumerai l'exposé de ce matin comme suit. La miséricorde, c'est d'accepter de faire un détour divin sur son chemin de vie pour que votre amour passe à l'action. C'est quoi la miséricorde? Nous parlons depuis quelques semaines de la miséricorde et il me semble qu'au regard du texte qu'on vient de lire ce matin, nous pouvons vraiment résumer la miséricorde comme étant d'accepter de faire un détour divin parce que c'est planifié par Dieu sur notre chemin de vie pour que notre amour puisse s'exprimer en action, puisse passer à l'action. Dans la lecture qui vient de nous être faite, nous allons regarder d'abord le contexte de l'histoire. Nous allons regarder le contexte qui a amené à l'histoire qui nous a été racontée dans les versets 25 au verset 28. Il est écrit, un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver. Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. On voit que durant le ministère de Jésus en Judée, Jésus rencontre un spécialiste de la loi qui en grec était nommé Nomikos, pour littéralement interprète et enseignant de la loi de Moïse. Et ces gens, à l'époque de Jésus, étaient des gens très respectés. Ces spécialistes de la loi étaient des gens très respectés parce qu'on les considérait comme des responsables de la communauté, des dignitaires dans leur communauté. Et ils avaient trois domaines de compétences. On les reconnaissait pour leur domaine de compétences. D'abord, ils avaient comme compétence d'expliquer les exigences des cinq premiers livres de la Bible, donc le Pentateuque, les livres de Moïse, d'expliquer donc les exigences et à monsieur, madame, tout le monde. La deuxième compétence qu'on leur reconnaissait, c'est qu'ils devaient garder la mémoire des anciens leaders du peuple, en particulier les prophètes. Et en dernier, ils avaient la responsabilité de former d'autres personnes dans la connaissance de la loi de Moïse. Dans cette rencontre entre Jésus et le spécialiste de la loi, nous pouvons voir clairement, dès le début du texte, qu'il y avait un motif qui était caché derrière la question que le spécialiste pose à Jésus. La Bible nous dit que cette question avait été posée pour tester Jésus. Donc, c'était le motif. L'expert appelle Jésus maître. Et pourtant, il lui pose une question. Il cherche à tester ce maître-là. Ce maître qui était un maître très populaire en son temps, mais qui n'était pas un maître officiel. C'était pas un maître. Jésus n'avait pas un diplôme de théologie officiel de l'époque pour être classé parmi les spécialistes de la loi. Donc, ce spécialiste de la loi voulait tester ce maître-là qui était très populaire, mais qui n'était pas très officiel. Donc, il voulait le tester et prouver éventuellement à toute la foule que ce maître-là n'était pas capable de répondre à une question théologiquement difficile. Donc, c'était ça l'esprit. Mais très rapidement, Jésus retourne la question au spécialiste de la loi. Verset 26, Jésus lui dit, « Qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Qui le tue ?» En d'autres termes, Jésus dit un peu au spécialiste de la loi, « C'est toi le spécialiste. Alors tu dois connaître la réponse, certainement. C'est toi le spécialiste, tu es un spécialiste, tu as un diplôme de théologie, donc tu es un spécialiste de la loi, tu dois connaître la réponse. » Ah, ça ne pouvait pas mieux tomber. Le spécialiste était aux anges. Il pouvait enfin prouver qu'il connaissait la loi. Donc, le verset 27, il dit... Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. » Cette réponse du spécialiste montre clairement sa perspicacité pour répondre, pour démontrer que oui, il maîtrisait son sujet. Mais Jésus, très rapidement, va répliquer en montrant toute son autorité sur le spécialiste de la loi. Il le fait notamment en lui disant, « Vous avez bien raison. » C'est une très, très bonne réponse. Tu as un A+. Je te donne un A+. La réponse est excellente. Tu as un A+. Tu mérites de passer. Tu as un A+. Mais Jésus n'arrête pas là sa réponse. Jésus ne s'arrête pas là. Il dit, « Fais cela et tu vivras. » Cet homme était un expert. C'est un spécialiste de la théologie. Mais il était plutôt un expert en théorie. Il n'était pas un expert en pratique. Jésus a montré, donc, de par sa réponse au spécialiste de la loi, qu'une bonne réponse ne suffisait pas. Il fallait véritablement faire ce que sa réponse était en train d'exprimer. Et beaucoup de gens bien-aimés, quand il s'agit de parler pour parler, on est très nombreux, on est très forts. Mais quand vient le moment d'agir pour agir, agir vraiment, là, on a quelques réserves. Et malheureusement, même dans la foi chrétienne, même parmi les chrétiens, on constate que souvent, on connaît beaucoup de choses en théorie, mais quand vient le moment de le mettre en application, il arrive que nous soyons un peu plus réticents. Continuons la lecture qu'on vient de nous faire ce matin. Continuons à regarder l'histoire. À partir du verset 29, il s'agit d'un verset clé pour comprendre toute la suite de la logique de Jésus-Christ dans l'histoire qui nous a été lue ce matin. Verset 29, « Mais lui, c'est-à-dire le spécialiste de la loi, voulant se justifier, dit à Jésus, « Qui est mon prochain ?» En fait, le spécialiste de la loi a la manière d'un bon avocat. Au lieu de regarder tout le contexte du verset que lui-même venait de réciter si brillamment, voulait prendre le temps de définir exactement un mot, le prochain. Il voulait la définition exacte du mot, le prochain. Il veut savoir qui est son prochain. Alors il pose la question, la définition du mot prochain. Selon toi, Jésus, toi le maître, que penses-tu? Et en fait, il n'a pas tort de poser la question parce qu'il y avait une certaine compréhension, une certaine interprétation du mot « prochain » à l'époque de Jésus. À l'époque de Jésus, « prochain » veut dire « celui qui se trouve à proximité », c'est-à-dire celui qui est proche de vous en termes de race ou de religion. Donc, quand dans la loi il est dit « tu aimeras ton prochain », pour le spécialiste de la loi, cela signifie « tu aimeras quelqu'un de ta religion ou quelqu'un de ta race ». Donc, si quelqu'un n'est pas de ta religion ou de ta race, alors la loi ne s'applique plus. Alors la loi ne s'applique plus. C'est ça la compréhension que le spécialiste avait. La Bible nous dit que le premier motif du docteur de la loi était de tester Jésus. Mais on voit là ainsi un deuxième motif. Le deuxième motif, c'était de se justifier. Et quand on utilise le mot « justifier » dans la Bible, on sait souvent que le mot « justifier » signifie être juste devant Dieu, être droit devant Dieu. Mais dans ce texte, le mot « justifier » ne signifie pas être juste. Le spécialiste ne cherchait pas à être juste devant Jésus-Christ. Il cherchait plutôt à s'excuser, à trouver une explication qui l'excuserait de ne pas aimer son prochain parce que ce prochain-là n'est pas de sa race ou de sa religion. Donc, c'est pourquoi ce passage est vraiment un passage clé pour comprendre la suite du texte qu'on a lu ce matin. Contrairement à ce que la plupart des gens pensent, la parabole du bon samaritain ne se limite pas à nous encourager à aider des gens qui sont dans le besoin. Mais c'est une parabole aussi qui vient faire écho à notre auto-justification, les arguments que nous avançons souvent pour ne pas faire certaines choses. Donc, ce n'est pas seulement un problème du spécialiste de la loi, c'est un problème aujourd'hui pour nous comme chrétiens aujourd'hui. Combien de fois nous nous justifions de ne pas pouvoir aider quelqu'un parce que c'est dangereux? C'est dangereux. Ou que nous ne pouvons pas aider quelqu'un parce que cela demande trop d'implications personnelles, voire émotionnelles. Nous ne pouvons pas aider quelqu'un parce que nous n'avons pas simplement pas de temps, ou nous ne pouvons pas aider quelqu'un parce que nous manquons d'argent. Poursuivons la lecture et voyons la réponse de Jésus. À partir du verset 30 au verset 37. Lisons d'abord les trois premiers versets de 30 à 33. Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, fortuitement, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un autre, un lévite, qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. » Avant de continuer l'histoire jusqu'à la fin, voyons un peu le casting que Jésus met en place dans son histoire. Il met un casting. Il dit, d'abord, il y a un groupe de voleurs. Deuxième, il y avait un homme qui s'est fait voler et battu si mal qu'il était à demi-mort. Et enfin, il y a trois personnages principaux. Le premier personnage du récit de Jésus, c'était un prêtre, un sacrificateur. Dans la communauté juive, les prêtres et les sacrificateurs jouissaient d'un grand privilège, c'est un grand honneur. C'était les, ceux qui devaient représenter le peuple auprès de Dieu. C'est eux qui offraient les sacrifices en faveur du peuple auprès de Dieu. Donc, ils étaient très considérés dans la société juive. Le deuxième personnage, c'est un Lévite. Un Lévite, il n'avait pas le même rang qu'un prêtre, mais il était quand même un personnage, un groupe de personnes privilégiées dans ce temps-là, parce que c'était eux qui étaient, les Lévites étaient responsables des cérémonies et de la protection du temple. Naturellement, en entendant Jésus raconter cette histoire, son auditoire, Jésus a d'abord parlé d'un prêtre, d'un sacrificateur, ensuite d'un Lévite. Donc tout le monde s'attendait à ce que, dans la suite, le troisième personnage soit un Juif, par exemple. Mais grande surprise, Jésus dit que le troisième personnage est un Samaritain. C'est un peu comme si vous racontez une histoire à vos enfants et vous dites, il y avait papa ours, il y avait maman ours et une moufette. C'est un peu l'histoire que Jésus raconte à son auditoire. Parce que pour les Juifs, les Samaritains étaient pires qu'une moufette. Pour les Juifs, les Samaritains étaient pires qu'une moufette parce que quelques 700 ans auparavant, le roi d'Assyrie avait envahi Israël et avait déporté plusieurs milliers d'Israélites qu'il a installés sur un nouveau territoire avec d'autres peuples. Ces peuples avec les Israélites se sont unis par mariage et ont eu des enfants et ils ont formé entièrement un nouveau peuple. Et au temps de Jésus, les descendants de ce nouveau peuple étaient les Samaritains. Vous voyez l'histoire, vous pouvez voir l'histoire dans 2 Rois 17. Et vous vous rappelez, il y avait une haine littéralement. Bien que ces Samaritains ont cru à la loi de Moïse, ils n'adoraient pas à Jérusalem, mais ils adoraient sur le mont Garizim. Et donc, il y avait comme un certain conflit latent et entre les deux peuples. Et ce conflit racial et religieux était parfois très violent. Vous vous rappelez de la rencontre de la femme samaritaine avec Jésus au puits, quand la femme samaritaine essayait de plaider sa cause en disant « Comment se fait-il que vous faites toutes les choses à Jérusalem ? Nous, on est ici sur la montagne et on est bien correct avec ça et on croit à la loi de Moïse. » En utilisant le Samaritain comme le héros de son histoire, Jésus voulait dire quelque chose de clair à son auditoire et en particulier aux spécialistes de la loi, que peu importe ce que vous pensez que vous êtes, peu importe ce que les gens pensent que vous êtes, ce qui est le plus important, c'est ce que vous allez faire. Indépendamment de ce que vous-même vous pensez être ou de ce que les gens pensent que vous êtes, ce qui est le plus important, c'est ce que vous allez faire, c'est les actes que vous allez poser. Et aujourd'hui, beaucoup de gens peut-être se disent chrétiens, mais le sont-ils réellement? Un sondage auprès des ménages canadiens par Statistique Canada en 2011 révélait que 67,3% des Canadiens se déclarent chrétiens. Mais honnêtement, croyez-vous que 7 personnes sur 10 au Canada sont réellement chrétiens, nés de nouveau, qui vivent et marchent suivant les principes de l'Évangile? Croyez-vous cela? Voyez-vous donc, on peut se déclarer chrétien et pourtant notre vie ne le révèle pas forcément. Poursuivons la lecture. Un détour divin. Versets 33 à 37. Mais un Samaritain qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha, banda ses plaies, y versa de l'huile et du vin, puis le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ?» C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi, fais de même. Jésus utilise donc l'exemple du bon samaritain pour nous montrer que ce n'est pas la personne qui est assise à côté de nous qui est notre prochain, mais c'est la personne envers qui nous témoignons de la miséricorde. C'est la personne envers qui nous témoignons de la miséricorde, la démonstration active de notre amour. Le Samaritain a accepté, il a choisi de dévier de son itinéraire pour porter secours à cette personne parce que cette personne avait été placée là par Dieu lui-même. Dieu a permis cette circonstance. Mais ce détour, bien-aimé, c'est un détour qui prend un risque. Revenons au verset 30. Le verset 30 nous dit, « Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu de brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. » La route de Jérusalem à Jéricho, c'est environ 27 kilomètres. Et cette route, malheureusement, au temps de Jésus, avait une triste réputation. Cette route passait sur plus d'un kilomètre au travers le désert et entre des collines rocheuses qui pouvaient facilement aider les voleurs à se cacher. Et cette route était vraiment tristement célèbre et était connue au temps de Jésus comme la route du sang. Donc, cette route-là était particulièrement dangereuse. Et tout le monde dans la région le savait. Et donc, quand Jésus parlait de quelqu'un qui descendait de Jérusalem à Jéricho, son auditoire savait exactement de quoi on parle parce qu'il y avait cette réputation de la route de Jérusalem à Jéricho qui était comme une route à éviter à tout moment. Donc, quand le Samaritain s'est arrêté et qu'il a eu l'idée d'aller porter secours à cette personne qui était blessée, le Samaritain savait que peut-être qu'il serait lui-même la prochaine victime. Parce que les voleurs qui avaient dépouillé cet homme, ils l'avaient non seulement volé, mais l'avaient battu en plus en le laissant demi-mort. Peut-être qu'ils ne sont pas très loin cachés encore dans les collines. Peut-être qu'il serait la prochaine victime. Parfois, nous aussi, nous prenons donc comme justification le fait que nous risquons nous-mêmes, nous courons un risque pour ne pas, la peur du risque, pour ne pas aider, pour ne pas porter secours à quelqu'un. C'est vrai que de nos jours, il faut faire peut-être attention. Il faut faire attention et peut-être prendre certaines décisions un peu plus intelligentes parfois. Imaginez que vous voyagez au travers le désert et que vous voyez un panneau qui dit « Faites attention aux autostoppeurs ». Et quelques kilomètres plus loin, vous voyez un homme en combinaison orange qui fait le pouce. S'arrêter pour le prendre n'est pas seulement irréfléchi, mais peut-être que on vous encouragerait à réfléchir par deux fois. Mais la plupart du temps, l'autre vrai problème n'est pas que nous prenons trop de risques. Malheureusement, la plupart du temps, notre vrai problème, c'est que nous ne prenons pas du tout de risques. Nous n'aimons pas prendre de risques. Une réflexion du pasteur Martin Luther King est assez révélatrice à ce sens. Il dit ceci, « La première décision que le pharisien et le lévite se sont posées était, « Si je m'arrête pour aider cet homme, qu'est-ce qui m'arrivera moi-même ?» Mais le bon samaritain inverse la question. « Si je ne m'arrête pas pour aider cet homme, qu'est-ce qui lui arriverait ?» Voilà, bien-aimés, ce que nous devions faire dans de telles situations. Si vous avez l'occasion de témoigner votre amour à autrui, votre frère, votre sœur ou un voisin, n'utilisez pas le risque comme excuse pour ne pas agir. Un détour aussi qui a exigé une implication personnelle. Verset 33, verset 34. « Mais un Samaritain qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Quand le Samaritain a vu le blessé, il n'est pas passé comme les deux premiers de l'autre côté de la route. Il a fait quelque chose. Au lieu de se détourner, il a eu une compassion sincère. Ses tripes en dedans de lui se sont serrés en voyant l'état lamentable dans lequel se retrouvait cet homme, moitié, la Bible dit, moitié mort. Il respirait à peine. Il a probablement déchiré ses propres vêtements pour servir de bandage aux plaies de cette personne. Et il a versé de l'huile pour conserver la peau souple et du vin pour désinfecter les plaies et éviter l'infection. Le Samaritain n'a pas eu peur de s'impliquer personnellement. Malheureusement, ce ne fut pas le cas de cette dame chinoise dont le récit nous a été rapporté le 8 juin 2017 par TVA Nouvelles. Les images captées par une caméra de vidéosurveillance montrent une femme tentant de traverser une rue et être percutée une première fois. Un deuxième véhicule finit par lui rouler dessus alors qu'aucun passant et automobiliste présent ne lui a porté secours depuis la première collision survenue plus d'une minute avant. La jeune femme a succombé à ses blessures à la fin du mois d'avril, moment où l'accident a eu lieu. Voici deux réactions. Le visionnement de cette vidéo me donne envie de pleurer et me met très en colère. Elle montre aussi l'enfer de la circulation en Chine, a écrit un blogueur sur le site chinois Weibo. Un autre dit, « Mon Dieu, qu'est-ce qui ne va pas dans notre société ? Qu'aurais-je fait si je m'étais trouvé sur ces lieux, sur ce lieu d'accident ? Je pense que j'aurais essayé d'arrêter la circulation pour porter secours à cette femme et j'aurais appelé le secours. » Le journaliste qui rapporte cette histoire ne nous dit pas si les passants et les automobilistes étaient des prêtres ou des lévites, mais de toute façon, il n'y avait pas de bons samaritains parmi ceux-là. Certaines personnes utilisent comme excuse de ne pas vouloir s'impliquer émotionnellement, personnellement, pour éviter d'aider. Mais le bon samaritain ne l'a pas fait. Il n'a pas attendu que quelqu'un d'autre vienne après lui, comme les deux premiers. Il n'a pas tout simplement fait le 911 pour appeler du secours. Ou il n'a pas simplement appelé son pasteur ou un ancien en disant de prendre soin de la situation. Il n'a pas seulement fait un chèque, il a été ému de compassion, nous dit la parole de Dieu, et il est descendu dans le fossé avec l'homme. L'homme n'était plus sur la route, il était dans le bas-côté, dans le fossé. Il est descendu dans le fossé pour prendre soin de lui. Probablement, il en est sorti couvert du sang de cette personne. Il s'est impliqué personnellement. Il était couvert de saleté parce qu'il était descendu dans ce fossé. Bien-aimé, si nous avons l'occasion de témoigner notre amour à autrui, à notre frère, à notre sœur, à un voisin, n'utilisons pas notre implication personnelle comme une excuse pour nous retenir. Regardez des gens qui sont famille d'accueil. Peut-être qu'il y a des gens qui sont famille d'accueil ici dans l'église. Vous allez accueillir des gens, des enfants que vous allez aimer, que vous allez prendre soin de, mais à un certain moment, vous allez les laisser s'en aller parce qu'ils sont rendus là. Mais vous avez contribué à faire quelque chose dans leur vie. Vous vous êtes impliqué personnellement, émotionnellement dans la vie de ces enfants pour leur permettre de pouvoir poursuivre leur chemin de vie. Un détour qui a pris du temps. Verset 34. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une hôtellerie et prit soin de lui. Le Samaritain n'a pas utilisé son agenda qui était vraiment compliqué probablement ce jour-là, qui était chargé pour ne pas aider. Il a pris le temps d'abord de s'arrêter. Il s'est arrêté pour prendre soin de cette personne. Et il a même changé quasiment son itinéraire en mettant la victime sur sa propre monture, une âne probablement, et il n'est pas allé le porter dans une salle d'urgence. Il n'existait pas. Dans tous les cas, même s'il en existait, les temps d'attente auraient été trop longs. Donc, il ne l'a pas amené dans une salle d'urgence, mais il l'a amené dans une auberge, dans une hôtellerie. Et la Bible nous dit que toute la nuit, il a veillé, il a pris soin de lui. C'est lui-même personnellement. Il n'y avait pas une infirmière ou un médecin de garde. Il a pris soin personnellement de ce malade. Parfois, nous utilisons le fait que nous avons nos horaires trop chargés pour ne pas porter secours. Et j'ai lu une histoire récemment dans un livre, une histoire fascinante que j'aimerais partager avec vous. C'est une étude qui a été réalisée par deux chercheurs du séminaire de théologie de l'Université de Princeton et qui a été publiée dans un livre de Tipping Point, How Little Things Can Make a Big Difference. Voici le scénario qu'ils mettent au point. Donc, ils demandent à deux groupes d'étudiants en théologie de préparer chacun un exposé sur un sujet différent et de le présenter à un auditoire rassemblé dans une salle située à l'autre bout du bâtiment. Pour le faire, il fallait traverser un long corridor pour se rendre, et sur le trajet, chaque étudiant a rencontré un homme effondré dans le corridor, la tête en bas, les yeux fermés, pris de toux et de gémissements. Il voulait savoir lequel des étudiants allait s'arrêter pour l'aider. Un des deux groupes d'étudiants avait comme thème d'exposé la parabole du bon samaritain. De plus, avant d'envoyer chaque étudiant, les chercheurs regardaient leur montre et disaient « Oh, tu es déjà en retard. L'auditoire t'attend probablement depuis quelques minutes. Tu feras mieux d'y aller. » Dans d'autres cas, ils disaient « Il faudra quelques minutes avant que ton auditoire soit prêt pour la présentation. » Mais tu pourras aussi bien te diriger vers la salle maintenant. Voici les résultats de leur sondage, de leur recherche. En effet, à plusieurs reprises, un séminariste en théologie qui allait donner sa présentation sur le bon samaritain, enjamba littéralement la victime, se précipita sur son chemin. La seule chose qui importait vraiment était de savoir si l'étudiant était pressé. De ce groupe, seuls 10% se sont arrêtés pour aider. Les étudiants qui savaient qu'il y avait beaucoup de minutes avant la présentation, 63% se sont arrêtés pour aider. Voici ce qu'on peut retirer de cette histoire. C'est que cette étude suggère que ce n'est pas notre culpabilité ou nos connaissances, ce que nous connaissons de la parole de Dieu, notre culpabilité pour ne pas agir conformément à la parole de Dieu, semble moins important quand vient le moment de prendre action. Ce qui semble compter le plus, c'est les circonstances immédiates qui entourent la prise de décision. Si vous êtes pressé, même avec un bon cœur de chrétien, généralement, le fait que vous êtes pressé fait que vous oubliez vos bonnes intentions. Voilà pourquoi, généralement, vous conseillez à vos enfants, soyez prêts et faites vos affaires, attendez tout ça, parce que le facteur temps est un facteur important. Et dans ce cas, le simple mot « Oh, tu es en retard » a pour effet de rendre quelqu'un qui, d'ordinaire, était peut-être compatissant en quelqu'un qui était indifférent à la souffrance. Donc, le temps, quand vient le moment d'aider, généralement, la plus grande capacité du chrétien, c'est d'être disponible, c'est se rendre disponible. Si vous avez donc bien aimé l'occasion de témoigner de l'amour à votre frère ou à votre sœur, n'utilisez pas votre agenda trop chargé, le temps, comme une excuse. Et enfin, un détour qui a pris de l'argent. Verset 35. Le lendemain, il tira deux deniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Si vous lisez entre les lignes, il semble que le bon samaritain, c'était quelqu'un qui avait l'habitude de passer par là. C'était probablement un commerçant, donc qui voyageait régulièrement par là, et l'aubergiste pouvait lui faire confiance. Il savait de qui il s'agissait, il pouvait lui faire confiance. Et non seulement il lui donne deux deniers, l'équivalent de deux jours de salaire, pour prendre soin de cette personne qui probablement allait rester là jusqu'à quelques temps encore avant d'être rétabli, mais il est prêt même à payer les frais supplémentaires que l'hôte aurait besoin pour prendre soin de lui. Il est prêt à payer les frais supplémentaires. Et si vous avez l'habitude des hôtels, vous savez que quand vous prenez quelque chose dans le minibar, la facture peut monter très rapidement. Mais il était prêt. Et l'ex-première ministre de la Grande-Bretagne, Margaret Thatcher, disait ceci sur cette histoire. On ne se souviendrait pas du bon samaritain s'il avait eu seulement de bonnes intentions. Il avait mis en plus de l'argent. Bien-aimés, si nous avons l'occasion de témoigner notre amour, d'exercer la miséricorde envers notre frère et sœur, n'utilisons pas l'argent comme excuse pour nous retenir. Et j'aimerais conclure ce matin par la fin du texte « Vivre à la ressemblance de Jésus-Christ, le vrai bon samaritain ». Regardons à nouveau l'ensemble de l'histoire qui nous est présentée. Jésus a répondu à la question « Qui est notre prochain ?» Oui, il a bien répondu à la question. Il a permis aux spécialistes de la loi et probablement à l'auditoire qui était là de voir comment est-ce qu'on pouvait définir, il a redéfini la notion de voisin. Le verset 36 à 37 dit « Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ?»« C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. » Et Jésus dit « Va, et toi de même, et toi fais de même. » En d'autres termes, Jésus ne tente pas seulement de répondre à la question « Qui est mon prochain ?» mais « Quel genre de prochain êtes-vous ? » Quel genre de prochain nous voulons être en tant qu'enfants de Dieu, en tant que disciples de Jésus-Christ, nos voisins, on fait la fête de voisins la semaine prochaine, est-ce que nos voisins, quel genre de voisins nous voulons que nos voisins pensent que nous sommes? Quel genre de prochain nous voulons être et non quel genre de prochain nous voulons que les autres soient pour nous? Voilà comment Jésus répond à la question. Bien-aimé, le bon samaritain a renoncé certainement à des avantages pour les donner à quelqu'un. Comme de bons disciples de Jésus-Christ, des disciples fidèles de Jésus-Christ, nous avons un privilège de renoncer parfois à des avantages en termes de temps, en termes de disponibilité, en termes d'argent, des sacrifices financiers que nous devions faire, en termes d'implication personnelle. Nous avons besoin de renoncer à certaines choses pour que d'autres personnes puissent en bénéficier pendant notre voyage ici sur la terre, pendant que nous servons et agissons au nom de Jésus-Christ, nous devons être ce genre de prochain que Jésus a décrit. Le temps que les musiciens reviennent, bien-aimés, quel exemple extraordinaire peut-être que celui du véritable, vrai, bon samaritain, Jésus-Christ. Jésus-Christ, lui aussi, il a fait un détour divin. Il a quitté le ciel. Honnêtement, moi, à la place de Jésus-Christ, je ne bougerai pas de là. Je ne bougerai pas du ciel. Il avait toute la gloire du ciel, mais il a accepté de quitter le ciel. Il a fait un détour divin. Il a fait un détour divin jusqu'à la terre. Il est venu pour toi et pour moi. Pourquoi est-il venu? Il est venu et ça lui a coûté quoi? Ça lui a coûté du temps, 33 ans. 33 ans qu'il aurait passé dans la gloire, il les a passés dans la misère de la terre à cause de toi et à cause de moi. Oh, ça lui a coûté une implication personnelle. Il s'est impliqué dans la vie de toutes les personnes qui l'ont côtoyé. Oh, ça lui a coûté plus qu'une implication personnelle. Ça lui a coûté sa propre vie. Ça lui a coûté sa propre vie comme disciple de Jésus-Christ. Accepterions-nous de faire un détour divin pour que quelqu'un autour de nous, un frère, une sœur dans la foi, un voisin, quelqu'un que nous ne connaissons pas, le Samaritain n'a pas demandé « C'est quoi ta carte d'identité? Tu viens de quel pays? Est-ce que tu es juif ou tu es Samaritain ?» Rien. Jésus n'a fait allusion à aucune de ces questions. Le Samaritain a vu une victime, il s'est arrêté, il a pris soin de lui. Voilà, bien-aimé, ce que nous devions faire comme enfants de Dieu, disciples de Jésus-Christ, pour exercer la miséricorde envers toutes les personnes que Dieu, dans sa grande miséricorde, nous donne l'opportunité d'aimer et de démontrer notre amour envers eux. Prions le Seigneur. Père Saint, merci pour ta grâce, merci pour le privilège que nous avons de te connaître. Toi, le seul, le vrai bon samaritain, qui a quitté ta royauté pour venir vers nous et que tu nous as donné ton temps, tu nous as donné ton implication personnelle, tu nous as donné ta propre vie, que d'ailleurs nous allons célébrer dans les prochaines minutes avec le souvenir de ce temps terrible que tu as passé en t'offrant sur en sacrifice à la croix pour nous. Seigneur, aide-nous. Aide-nous comme disciples à être des serviteurs qui marchons à ta ressemblance. Aide-nous à manifester la miséricorde, à accepter de faire un détour divin sur notre propre chemin de vie que tu traces devant nous afin de porter secours à quelqu'un, afin d'être en bénédiction pour quelqu'un, quel que soit ce que cela nous coûte. Peut-être que nous prendrions un risque, peut-être que nous perdions du temps, peut-être que nous allons nous impliquer personnellement, émotionnellement, peut-être que cela demandera que nous puissions ouvrir notre portefeuille. Mais quoi qu'il en soit, Seigneur, permets-nous de t'obéir. Sois béni en Jésus-Christ. Amen.